Bonsoir, Félix Tshisekedi demande à la communauté internationale de sanctionner toutes les sources d'approvisionnement et d'appui aux groupes armés. Demande faite mardi dernier à l'occasion de sa deuxième intervention à l'Assemblée générale de l'ONU depuis qu'il est président de la RDC. Félix Tshisekedi, qui a abordé plusieurs sujets dans son intervention, dont la lutte contre le coronavirus, a aussi plaidé en faveur de l'accroissement de la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention de la MONUSCO en la dotant d'unités spéciales. Paiement des fonctionnaires de la République démocratique du Congo par voie bancaire, appelé aussi bancarisation. Les résultats préliminaires des enquêtes de la police judiciaire des parquets sur la paie des fonctionnaires et agents de l'État renseignent qu'il y a plus de 133 000 agents fictifs et environ 43 000 doublons qui bénéficient indûment de la paie des fonctionnaires officiellement reconnus. Des sources proches de la police judiciaire qui se sont confiées à Radio Okapi affirment qu'il y a des détournements de salaires opérés par manque d'un système de bancarisation efficace depuis le mois d'août 2011 jusqu'à ce jour. Pour évoquer ces sujets, nous accueillons ce soir Dionit Kaninda, journaliste responsable de la chaîne en ligne Congo Market TV. Dionit Kaninda, bonsoir.
Bonsoir et merci pour l'invitation. Mes salutations à tous ceux qui nous suivent sur Radio Capi.
Mais aussi Jean-Marie Nkamboa, bonsoir.
Bonsoir, confrères. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans toute la République.
Directeur de publication au quotidien L'Avenir. Et enfin, Benjamin Wemambolo, journaliste à la radio communautaire Oussassia Tchoumbe, province de Sankourou. Benjamin Wemambolo, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je souhaite une bonne soirée à tous mes co-débatteurs et à tous les auditeurs de la radio Capi.
À tous, bienvenue dans votre émission. Dionit Kaninda, journaliste responsable de la chaîne en ligne Congo Market TV. À ce stade de notre émission, quelle actualité non encore évoquée jusqu'ici souhaitez-vous partager avec nous?
Non, mais moi je voudrais revenir sur la situation qui prévaut dans la presse congolaise. Vous savez que dans quelques jours, nous serons en congrès et je pense que c'est un moment très important parce que la presse congolaise, vous le savez, minée aujourd'hui par beaucoup d'états, il faut que nous nous asseyons pour réfléchir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour redynamiser la presse congolaise, revaloriser la presse congolaise. Vous savez que beaucoup d'hommes de médias ont été clochardisés par des gens au pouvoir qui n'ont pas permis à la presse congolaise de pouvoir se développer. Mais entre-temps, nous sommes gérés et même jugés à travers le tribunal des pairs par des personnes qui n'exercent plus. Ça, je crois que c'est des situations que nous devons réformer et recadrer. Voilà pourquoi moi je pense que nous devons tous soutenir ce congrès et même aussi j'en profite pour demander à des tiers de pouvoir aider l'UNPC à organiser dans de meilleures conditions ce congrès dans la cité de Moanda.
Nous levons notre voix aussi pour souligner ce récent rapport qui a indiqué que des journalistes femmes, surtout en province, évoluent dans des conditions difficiles et nous souhaitons que les autorités du pays vont mettre en œuvre le nécessaire pour que les journalistes se mettent dans des conditions appréciables pour pouvoir exercer leur métier. Merci Dionit Kaninda d'évoquer ce sujet. Jean-Marie Nkamba, à ce stade de notre émission, votre commentaire libre.
Merci, confrère. Moi, je veux saluer une information que je considère de prouesse. Selon les lectures faites, il s'avère que la RDC a fait son entrée dans les top 10 des pays africains les plus attractifs d'investissement en 2020. Et je me rends aussi compte que c'est un rapport qui a été fait par les cabinets d'audit Deloitte. Et selon ces cabinets, la RDC est donc classée 9e avec un score de 3,3% en évolution par rapport à l'année précédente. Donc cette prouesse, c'est le fruit des efforts qui ont été menés. Vous vous souvenez, confrère, que depuis plusieurs années, à travers l'ANAPI, le gouvernement fournit quand même beaucoup d'efforts qui aujourd'hui commencent à porter leurs fruits. Même si dans les classements Doing Business, la position de la RDC n'évolue pas tellement, mais nous pensons que dans les années à venir, la République démocratique du Congo va améliorer son classement parce que sur terrain, il est prouvé que les efforts sont faits, même si le plus dur reste à faire. Donc, dans notre pays, pour créer une entreprise, c'était tout un problème. Aujourd'hui, les procédures ont été simplifiées et dans un délai très court aujourd'hui, on peut créer son entreprise, on peut remplir toutes les formalités et commencer à opérer sans entrave. Donc, c'est quand même quelque chose d'important qu'il faut retenir.
Merci.
Plutôt que de nous plonger dans l'histoire INPC et consorts, voilà des choses positives qui concernent notre pays, qu'il faut parler, qu'il faut marteler, sans pour autant perdre l'essentiel.
Merci Jean-Marie Nkamboa, Benjamin Wemambolo, journaliste à la radio communautaire Ousassé à Tchoumbé, province de Sankourou, votre avant-goût informationnel.
Je crois qu'à ma première participation, j'ai déploré ce que nous sommes en train de vivre ici. Ça ne va pas et il y a des milices qui continuent. Et les gens s'entretuent. Ça n'a même pas duré une semaine ici. Nous avons perdu un chef coutumier du côté de Tchoumbé, le toit de Lodja. Donc nous voulons que la paix revienne au Sankourou. Comme nous demandons, nous sommes en train de plaider auprès du gouvernement, en l'occurrence chef de l'État, pour que la paix règne dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc au Sankourou, ça ne va pas.
Merci Benjamin Wemambolo. Vous parliez de sécurité tout à l'heure. Il sera aussi un peu question de ça dans notre sujet d'introduction. Félix Tshisekedi demande à la communauté internationale de sanctionner toutes les sources d'approvisionnement et d'appui aux groupes armés. Demande faite mardi dernier à l'occasion de sa deuxième intervention à l'Assemblée générale de l'ONU depuis qu'il est président de la RDC. Félix Tshisekedi, qui a abordé plusieurs sujets dans son intervention, dont la lutte contre le coronavirus, a aussi plaidé en faveur de l'accroissement de la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention de la MONUSCO en la dotant d'unités spéciales. L'essentiel de la communication de Félix Tshisekedi dans ce résumé de Billy Ivan Lutumba.
Monsieur le Président, en attendant que nous puissions nous convenir sur les contours définitifs de l'avenir de la MONUSCO sur le territoire national, le vœu de la République démocratique du Congo est de voir pendant cette période de préparation à la sortie le renforcement de la collaboration sur le terrain au sein des unités de la MONUSCO et avec les FRDC afin que la puissance de feu attendue pour protéger la population et restaurer la paix, la sécurité et l'autorité complète de l'État sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les localités où la présence des groupes armés est encore visible, soit effective. Ma détermination est de redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est de mon pays qui vivent dans l'insécurité depuis plus de deux décennies. Pour ce faire, la République démocratique du Congo s'inscrit en faveur du principe d'accroître la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention, notamment en la dotant d'unités spéciales adaptées à la guerre asymétrique que nous imposent les groupes armés à l'est du pays.
C'était un extrait de la communication du président de la RDC à l'ONU, un extrait préparé ici par Billy Ivan Lutumba. Dionit Kaninda, quelle est votre réaction à cette deuxième intervention du président Félix Tshisekedi à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies? Il a touché plusieurs sujets, c'est vrai, mais de manière globale, comment avez-vous trouvé cette prestation et quels sont les sujets qui, pour vous, ont semblé plus importants et bien soulignés par le président?
Mais je crois que le président de la République, par rapport à sa première intervention à la tribune de l'Assemblée des Nations unies, j'ai trouvé que le président était quelque peu dans une position de pouvoir conscientiser les partenaires sur le danger qui guette la partie orientale du pays. Parce que vous vous souviendrez que à sa première intervention, il avait affiché sa volonté de ramener la paix, de redonner le sourire aux compatriotes de l'Est du pays. Mais cette fois-ci, il vient pour conscientiser un peu ses partenaires par rapport aux défis qu'il faut relever pour finalement redonner du sourire aux compatriotes de cette partie de l'Est du Congo. Mais il intervient avec deux aspects que moi j'ai trouvé plus essentiels, c'est notamment l'aspect sécuritaire, mais aussi cet aspect environnemental. Lorsqu'il parle, par exemple, des arbres qui sont plantés aujourd'hui par la République à travers les élèves, c'est pour rencontrer les attentes au niveau international aujourd'hui avec la protection de l'environnement. Je crois que ça, c'est un sujet mondialement aujourd'hui très capital qui nécessite quand même beaucoup d'efforts de la part des gouvernants, et il se met justement dans ce schéma-là mondial qui veut que nous puissions préserver ou conserver la nature. Mais s'agissant de la sécurité au pays, je crois qu'il y a quand même des controverses autour de solutions qu'il faut apporter dans l'Est du Congo pour en finir avec l'insécurité. Au niveau interne, même s'il y a des efforts qui sont fournis, mais il faut savoir que la MONUSCO, qui est la plus grande force d'intervention dans le monde des Nations Unies, a quand même une grande part de responsabilité, parce qu'il y a des divisions à ce niveau-là. Le pouvoir passé voulait à ce que l'on réduise le nombre de forces combattantes de la MONUSCO. Mais lui, quand il vient, il demande le renforcement de la capacité opérationnelle de la MONUSCO pour en arriver à bout des forces négatives. Je crois que cette approche du président de la République mérite quand même une attention particulière des Nations Unies pour pouvoir arriver à mettre fin à cette crise dans l'Est du Congo. Parce que vous savez qu'il y a des accusations qui pèsent contre le Rwanda, contre l'Ouganda, tous ces pays frontaliers aujourd'hui, mais rien n'est fait concrètement par les Nations Unies pour aider la RDC à en finir complètement. Je crois que l'épineux problème reste les richesses du Congo qui sont enviées par les pays voisins qui profitent des richesses du Congo. Mais comme vous le savez, no kunda, no job. Alors on se demande, est-ce que le président sera écouté par ses partenaires des Nations Unies pour finalement aider à mettre fin à ce cycle de violence qui continue dans l'Est du Congo.
Mais Dionis Kalinda, est-ce que la communication du président de la République, surtout concernant le volet sécurité, est-ce que ce n'est pas finalement une déception, vu que on aurait pu s'attendre à un président de la République qui prend les devants et manifeste des signaux d'avoir le destin du pays en main, mais on voit plutôt un président qui dit « je souhaite que soit combattu », comme si c'est quelqu'un de l'extérieur qui devait le faire, « je souhaite que soit combattu »,« je voudrais » ou « je demande que la MONUSCO soit renforcée ». On voit un président qui est là encore a tendance à dépendre de l'extérieur, non ? Est-ce que c'est pas une déception par rapport à si le président avait dit « je fais ceci, je vais arrêter, j'ai terminé, la paix est revenue ».
Pour moi, personnellement, je suis un peu déçu. J'aurais voulu que le président, par exemple, prenne ses responsabilités pour révoquer, entre autres, le chef d'état-major général, par exemple, et le ministre de la Défense. J'aurais voulu qu'il le fasse. Mais est-ce que vous comprenez le contexte dans lequel Félix Tshisekedi se retrouve aujourd'hui en tant que président de la République, à la tête du pays, mais sur base d'une coalition qui, lorsque, par exemple, vous voulez assumer les responsabilités de l'État pour mettre, par exemple, le ministre de la Défense dehors, eh bien, vous voyez déjà ce qui va arriver avec la coalition. On se dira, non, mais c'est dans le cadre de la coalition, il ne peut pas révoquer, alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de résultats. Le président de la République peut facilement aller sur cette voie-là, d'aller directement sur le fond de la question pour, par exemple, mettre dehors tous ceux qui n'arrivent pas à faire leur travail. Mais vous voyez ce qui peut arriver avec la coalition, les conséquences. Mais il préfère opter une voie diplomatique. Il commence avec la diplomatie. C'est lorsqu'il aura trouvé, ou la population, le peuple congolais se sera rendu compte que la démarche diplomatique de Félix Tshisekedi n'a pas été comprise ou n'a pas apporté des solutions. En ce moment-là, je crois que lorsqu'il va, par exemple, prendre des décisions fermes d'attaque ou de chasse à la sorcière, comme on aime bien le dire au pays, en ce moment-là, je crois que le peuple congolais sera témoin des efforts qui auront été produits par Félix Tshisekedi pour mettre fin de façon diplomatique, mais ça n'a pas marché, et il peut suivre une autre voie par la suite.
Merci Dionis Kalinda. Jean-Marie Nkamboa, avez-vous l'impression que à 3 ans de la présidentielle prochaine, hein, de celle de 2023, que le président de la République est déjà un peu en difficulté lorsque, dans sa deuxième apparition aux Nations Unies, il n'est pas plus offensif, mais il est encore dans cette posture de souhait, de demande, d'attente des autres.
Moi, je pense que c'est un peu très tôt
de les juger point, d'autant plus que nous ne sommes pas encore dans la période électorale. Mais moi, je pense aussi que la position du chef de l'État doit être comprise par rapport au contexte régional. C'est un président de la République qui, en 2021, sera président de l'Union africaine et il aura besoin de coopérer avec tout le monde. C'est un président de la République qui avait convoqué un mini-sommet à Goma, qui ne s'est pas tenu, mais qui va se tenir. À l'endroit de ses voisins immédiats, il avait quand même intérêt de pouvoir ne pas frustrer, déranger certains d'entre eux pour qu'ils ne puissent pas contribuer aux efforts de paix dont il est pratiquement l'initiateur. C'est dans ce sens-là que moi, je comprends un peu son embarras. Dans la mesure où la crise dans l'Est aujourd'hui, elle est connue de tout le monde, nous savons très bien d'où viennent la plupart des mouvements rebelles et nous savons très bien quelles sont leurs motivations. Leurs motivations, ce sont les ressources de notre pays et ce sont les mouvements rebelles dont la majorité vient des pays voisins. Alors, imaginez-vous dans ce contexte-là que le président de la République, qui est censé connaître toute la réalité, ne puisse pas dénoncer ou bien identifier ceux-là qui sont derrière ces groupes armés. Ça ne peut qu'étonner beaucoup de gens.
Alors, Jean-Marie Kamboa, pensez-vous que en le disant un peu comme ça à l'emporte-pièce, pensez-vous qu'il souhaiterait que les nations partenaires ou des nations proches à la sensibilité congolaise puissent intervenir plutôt que l'armée congolaise pour ne pas être prise à partie? Ou pensez-vous que c'est justement une tactique bien structurée du président de la République pour endormir ses ennemis les plus proches et le moment venu frapper grâce à l'armée nationale?
Non, moi je pense que c'est une stratégie, c'est sa diplomatie qu'il a adoptée dans l'objectif de chercher d'abord à attirer vers lui tous les pays voisins et une fois qu'il les aura attirés vers lui, leur dire toute la vérité et maintenant prendre des mesures qui s'imposent. Parce qu'il est prouvé que, comme nous le disions il y a peu, si il est prouvé qu'aujourd'hui le Rwanda, qui n'a pas de la cassiterite, qui n'a pas du coltan chez lui, à une usine qui traite ses matières premières. Cela voudrait dire qu'en RDC, il y a une zone d'approvisionnement. Il y a des miliciens dont l'objectif est de favoriser cette contrebande. Et au finish, les minéraux finissent par le Rwanda. Ça, c'est une réalité que tout le monde connaît. Et ça étonne aussi plus d'un Congolais lorsqu'on sait très bien que dans la partie Est, nos FARDC se comportent généralement bien jusque-là, mais nous avons quand même une MONUSCO qui a un plus grand nombre de troupes en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Et dans les différents mandats qui sont donnés à la MONUSCO, il y a notamment l'application du fameux chapitre 7. Qu'est-ce que la MONUSCO en fait? Où se trouve cette application? Et pourtant, il est dit qu'en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix, d'acte d'agression, on doit mettre en branle cette stratégie afin d'éradiquer, d'éliminer. Malheureusement, qu'est-ce qu'on assiste au niveau de la MONUSCO? On assiste au discours selon lequel, non, ce n'est pas nous, la MONUSCO, qui devons attaquer, qui devons être sur le terrain, c'est le gouvernement congolais, nous venons en appui. Donc, moi, je pense qu'on devrait éviter cette ambivalence-là de soutenir et ne pas soutenir. On est derrière les FARDC, mais en réalité, on n'est pas derrière eux. On essaie un peu de les accompagner, quoi, soit pour prouver au monde entier vraiment que l'on soutient pendant qu'on ne soutenait pas.
Alors,
vraiment l'accent peut être mis sur la réforme. Si pas ces forces ne diminuent pas, bon, je ne vois pas pour quel intérêt on accroîtrait encore leur capacité opérationnelle. On accroîtrait pourquoi? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas eu jusque-là? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas eu?
Alors,
je pense que la MONUSCO a eu tout ce qu'elle avait besoin, mais malheureusement, elle n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Peut-être que l'on responsabilise les FARDC afin qu'ils puissent tenter d'éradiquer ces forces négatives.
Merci Jean-Marie Nkamboa, vous avez plus ou moins répondu à la question par laquelle je voulais vous relancer tout à l'heure. Benjamin Wemambolo, justement, c'est cette question de la MONUSCO, je souhaite aussi vous la poser, même si vous êtes dans le Sankourou où on n'a pas eu dans l'histoire de la MONUSCO à déverser forcément les forces de la MONUSCO dans cette partie du pays. Un peu comme le disait tout à l'heure Jean-Marie Nkamboa, avez-vous l'impression que le vrai problème de l'action de la MONUSCO, c'est des forces supplémentaires qu'on doit lui ajouter, un peu comme le président de la République a censé le dire dans son message, il a souhaité l'ajout d'unités spéciales, ou avez-vous plutôt l'impression, comme disait Jean-Marie Nkamboa tout à l'heure, que la brigade qui est déjà là a tout le nécessaire et qu'on ne l'a pas seulement utilisée ou on ne l'a pas utilisée comme il fallait?
Moi, je trouve que la MONUSCO n'a pas encore perdu sa vision. Il faut comprendre que la présence de la MONUSCO en RDC, c'est pour la paix. La paix, la MONUSCO n'est pas venue utiliser des armes pour s'affronter avec les ennemis. Il est là, la MONUSCO, elle est là, c'est pour renforcer la RDC, à mettre fin aux différentes guerres qui s'offrent dans toute la République démocratique du Congo, surtout la partie Est. Je sais que réduire l'effectif, c'est bien. Renforcer, c'est qu'a demandé le président de la République, c'est très nécessaire. Très nécessaire parce qu'il faut voir, ce n'est pas l'Est seulement celle que je vous disais, surtout à ma première participation. Je vous ai dit, l'insécurité est devenue maintenant en RDC partout. Même au Sankou, on a besoin vraiment, la présence de la MONUSCO nous aidait. Lorsque la MONUSCO était arrivée à Lodja, au Sankou, tout le monde était content. Parce que quand la MONUSCO est là, il tranchait, c'est comme une église au milieu du village. Mais lorsqu'on a retiré la MONUSCO, maintenant, il y a des guerres partout. Il y a des gens qui tiennent des armes.
La présence. Benjamin, mais est-ce que comprenez-vous quand même le discours de la MONUSCO ou son mandat, lorsque généralement les cadres de la MONUSCO rappellent à l'opinion congolaise que ce ne sont pas les militaires de la MONUSCO qui sont une vingtaine de mille, par rapport à l'armée de la RDC qui a plusieurs centaines de milliers de soldats, ce n'est pas cette force de la MONUSCO qui va venir combattre sur tous les territoires de la RDC, mais plutôt peut venir en appui à des actions bien identifiées, et limitées dans le temps, avec peut-être une logistique supplémentaire. Comprenez-vous que ce discours de la MONUSCO de ne pas se substituer à l'ensemble de l'armée de la RDC, mais plutôt de l'accompagner par des opérations par-ci, par-là, que c'est vraiment ça le mandat de la MONUSCO et pas l'amalgame qu'on souhaiterait faire à la MONUSCO et de lui faire jouer le rôle qui n'est pas le sien?
Oui, c'est ce que je disais auparavant. Je vous ai dit, mon frère, la présence de la MONUSCO en RDC, ce n'est pas pour s'affronter avec nos ennemis. C'est pour nous appuyer et retrouver la paix. Donc la MONUSCO est là, soit ça peut être la République manque des armes meilleures, de bonne qualité, pour nous appuyer. Par exemple, à l'Est, nous n'avons pas beaucoup d'hélicoptères. Et que la MONUSCO a des hélicoptères. La MONUSCO peut nous appuyer avec de tels actes, soit avec des négociations, des réconciliations. Moi, comme je ne suis pas à l'Est, je ne suis pas à côté de la MONUSCO, mais j'attends lorsque je suis la radio Capi qui passe à travers ma chaîne là où je travaille, à Tchoumbé, mais j'attends les actes, les actions de la MONUSCO. Ils ne sont pas tout simplement pour nous appuyer avec les armes et d'autres choses, mais même avec les négociations que la MONUSCO est en train de faire. C'est une avancée significative. Quand quelqu'un a fait quelque chose, il faut apprécier. Nous avons des pays voisins qui nous aiment et nous retrouvons dans des associations. Il y a SADC qui est là et d'autres choses. Pourquoi ces pays voisins ne viennent pas nous aider? Mais la MONUSCO a accepté de venir retrouver la paix chez nous. Il faut les applaudir, il faut les apprécier. C'est que le président a demandé d'augmenter l'effectif, c'est très nécessaire. La MONUSCO, la présence de la MONUSCO en RDC est encore très recherchée. Moi, je vous demanderai, ce n'est pas tout simplement à l'Est de la République, mais on a aussi besoin de la MONUSCO, même au Sankou et ailleurs.
Merci Benjamin Ouimambolo. Avec ça, nous entrons dans notre deuxième sujet qui se penche un peu sur des questions d'argent. On était loin d'imaginer pareil scénario. Les résultats préliminaires des enquêtes de la police judiciaire, des parquets sur la paix des agents et fonctionnaires de l'État renseignent qu'il y a plus de 133 000 agents fictifs et environ 43 000 doublons qui bénéficient indûment de la paie des fonctionnaires et agents de l'État officiellement reconnus. Des sources proches de la police judiciaire qui se sont confiées à Radio Okapi affirment qu'il y a des détournements de salaires opérés par manque d'un système de bancarisation efficace depuis le mois d'août 2011 jusqu'à ce jour. Les détails de ces révélations avec Jeff Ngoy.
Selon nos sources, les agents de l'administration publique du président de la République jusqu'au dernier huissier comptent environ 1 138 000 fonctionnaires. La même source affirme que ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Les vrais effectifs ne sont jamais maîtrisés malgré les recensements réguliers. 133 000 agents fictifs et sur plus d'un million d'agents, cela fait plus de 13% d'agents fictifs, ce qui cause un manque à gagner considérable au trésor public. L'histoire de la bancarisation remonte de l'instruction demandée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, car d'après nos sources, le rapport du comité de suivi de cette bancarisation n'avait jamais été finalisé et qu'il y aurait des éléments nouveaux. Peu avant, la première demande d'instruction avait été formulée sur injonction de l'ancien ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, puis le dossier fut classé sans suite. Depuis le mois d'août 2011, 7 000 milliards francs congolais et 50 millions chaque mois ont été détournés des salaires des fonctionnaires. Les enquêteurs allèguent que l'argent détourné a été partagé entre 50 personnes, agents et officiels impliqués dans la chaîne de paiement avec la complicité de certains responsables de la Banque centrale et des banques commerciales. Nos sources présument encore que dans le cadre du suivi de la bancarisation, le comité qui en assure le contrôle et l'encadrement afin d'élaguer les doublons et les fictifs n'est pas non plus sans reproche. C'est responsable de falquérer l'équivalent de 3,6 dollars sous la paie de chaque fonctionnaire. À noter que les fonctionnaires de l'État se disent satisfait de ces résultats préliminaires. Selon Jean Bosco Pouna du Sinecat, ils ont toujours réclamé un audit sur cette bancarisation et que ces enquêtes tombent ainsi à point nommé. Ils souhaitent que cela aboutisse à des sanctions.
Dionite Kaninda, journaliste responsable de la chaîne en ligne Congo Market TV. Nous sommes là en face d'un dossier supplémentaire de coulage des recettes en République démocratique du Congo. Pensez-vous que cette nouvelle stratégie de coulage des recettes a été faite exprès? Et à votre avis, que faut-il faire immédiatement pour arrêter cette saignée d'argent?
Dans mon temps d'antenne, je vais juste rencontrer Jean-Marie sur un petit point et je vais rebondir rapidement sur mon temps. Pour dire que lorsque le président de la République dit par exemple que le gouvernement congolais soutient également la nécessité d'allouer des finances, la logistique nécessaire pour à la MONUSCO bien sûr, pour venir à bout de ce qui se passe dans l'est du Congo. Moi j'entends par là qu'aujourd'hui la MONUSCO fait face à des besoins auxquels elle ne sait pas répondre, par exemple parce que je sais que ces finances viennent de contributions des nations. Je crois qu'il se pose, il y a quand même un problème à ce niveau-là. Lorsque le chef de l'État l'évoque dans son discours, je crois que ça attire quand même l'attention de ces pays membres des Nations Unies pour pouvoir donner à la MONUSCO les moyens nécessaires pour pouvoir intervenir directement sur le terrain. Alors, maintenant, oui. Par rapport à cette question de solutions qu'il faut pour mettre fin, parce que c'est pas nouveau.
Pensez-vous déjà, oui. Dionite, que ce nouveau coulage de recettes a été fait exprès pour faire saigner les caisses de l'État ou c'est un concours de circonstances?
C'est que le président de la République avait appelé au début de son mandat le système qu'il devait déboulonner. Alors les gens avaient mal compris cela, mais pour le comprendre, c'est justement des rapports comme ça qui nous révèlent qu'il y a justement un système qui a été mis en place pour paupériser la population congolaise et les fonctionnaires de l'État plus particulièrement. Comment vous pouvez comprendre? Parce que lorsqu'on parle de près de 170 000 agents qu'on dénombre comme ça, comme des fictifs, et c'est des millions de dollars américains qui vont dans des poches des individus. C'est ça justement le coulage, parce que cet argent-là, ça quitte les trésors publics au motif que ça va payer ou améliorer les conditions de vie des agents de l'État, mais alors que ça va dans des poches des individus. Alors que si on a le chiffre, le nombre réel d'agents de l'État, ça signifie que là où on sortait, par exemple, 1 million de dollars pour la paye, ça ne sera plus 1 million, ça sera, je ne sais pas moi, 600 000, par exemple. Et les 400 000
ça va être affecté à d'autres programmes pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais tout ça, c'est organisé dans un système, il n'y a pas qu'un seul individu. Donc vous trouverez là, par exemple, qu'il y a un tel ministre qui est dedans, il y a tel secrétaire général qui est dedans, il y a tel inspecteur qui est dedans, il y a tel groupe d'enseignants qui sont dedans. Donc c'est toute une chaîne, c'est un système qui a été mis en place. Alors pour que ça prenne fin, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je crois que la solution, c'est de punir sévèrement les coupables. Donc, l'IGF ou l'inspection des finances ne doit pas s'arrêter au rapport, oui, les rapports, oui, mais nous devons, le peuple congolais doit avoir les noms, doit avoir les noms des personnes qui ont sombré dans ces pratiques, qui ont avili pratiquement le fonctionnement ou le système du fonctionnement de l'appareil étatique dans notre pays. Donc, moi, je prends la sanction et deux, je prends la prime pour la dénonciation. On doit primer des personnes qui dénoncent des cas comme ça et on doit sanctionner des cas avérés de coulage des recettes de l'État.
Merci Dionis Kaninda. Jean-Marie Nkamboa, directeur de publication au quotidien L'Avenir, après la saignée révélée hein, à la GECAMINE, les exonérations, la fuite au niveau de l'EGEFREM, les détournements des enveloppes des miniers et maintenant la bancarisation, avez-vous l'impression qu'il y a tout un plan bien pensé de détournement des deniers publics ou pas?
Laisse-moi aussi prendre ne fût-ce que quelques secondes pour dire un mot par rapport à la Monisco. Pour constater tout simplement que la Monisco a évolué par rapport à son mandat. Elle a commencé par être une mission d'observation. Aujourd'hui, c'est une mission de développement. Qui dit développement dit qu'il faut impérativement qu'il y ait la paix. Raison pour laquelle on lui a soumis d'appliquer le fameux chapitre 7 avec tous les moyens conséquents. Souvenez-vous, confrère, que la Monisco appuie régulièrement nos FRDC en logistique, ce qui prouve que ce ne sont pas les moyens qui manquent à la Monisco afin de pouvoir mettre un terme à la situation qui prévaut dans l'est de notre pays. Maintenant, par rapport à la bancarisation, je voudrais d'abord noter une volonté du pays dans la mesure où le pays est confronté à un problème de moyens. Et les pays se rendent compte que l'argent était soit dilapidé, soit détourné par certaines personnes mal intentionnées. Alors, raison pour laquelle des enquêtes ont été menées un peu partout pour essayer de voir un peu clair par rapport à la gestion des fonds publics. Donc, que ce soit des révélations au niveau des exonérations ou bien au niveau de la bancarisation, ça ne peut que réjouir les Congolais. Pourquoi? Parce que l'objectif qui est visé, c'est de permettre à ce que tout l'argent puisse être canalisé dans les trésors publics, voir le budget de notre pays s'améliorer et en même temps les conditions de la population aussi s'améliorer en même temps. Et au-delà de ça, mais je voudrais quand même m'étonner pour constater que si une enquête est menée, je ne pense pas que les destinataires des enquêtes seraient les réseaux sociaux ou certains médias qui sont en ligne. Moi, je pense que les destinataires d'une enquête devaient être les instances judiciaires. Lorsqu'on a mené une enquête, on ne partage pas les conclusions dans les réseaux sociaux, on ne distille pas les éléments dans les réseaux sociaux, mais néanmoins, on transfère les dossiers au niveau des instances judiciaires qui sont, elles, capables de pouvoir initier des enquêtes et des procès pour établir la vérité.
Mais il me semble, sauf erreur de ma part, que concernant notamment les exonérations et ce sujet de bancarisation, l'inspection générale des finances avait dit avoir déposé déjà le nécessaire au niveau de la justice. Mais l'autre question, Jean-Marie, c'est aussi de savoir comment, selon vous, pensez qu'il y a eu ce grand nombre de détournements via l'effectif et les doublons, alors que régulièrement, on nous parle des contrôles physiques effectués au niveau des services publics, non?
Non, qu'est-ce que je peux répondre là-dedans? Je peux tout simplement constater que l'action humaine est toujours imparfaite. L'homme, dans sa nature, est toujours imparfait. Raison pour laquelle nous avons les instances de contrôle. Non seulement que nous avons l'inspection générale des finances, mais nous avons aussi la Cour des comptes. Donc, il est important que chaque structure, que chaque institution puisse mener les enquêtes indépendantes. Et les enquêtes indépendantes, lorsqu'on a des conclusions, on les verse dans les instances judiciaires et non pas dans la rue.
Votre intime conviction, Jean-Marie, est-ce que oui. Vous pensez que c'est plus des erreurs matérielles ou plutôt un plan bien planifié de voler l'argent de l'État?
Non, il ne s'agit pas d'un plan bien planifié. Il s'agit, pour certains, ça peut être des erreurs. Pour certains autres aussi, ça peut être une volonté manifeste
de détourner
les deniers publics. Mm-hmm. Parce que je me rends compte de la manière dont se tiennent les réunions du comité chargé de la paye. Bon, moi, j'ai quand même déjà pris part à cette réunion-là pour constater comment les choses se déroulaient en toute transparence. Bah, étant donné que, en tant que journaliste, nous n'avons pas assez d'éléments là-dessus, mm-hmm. étant donné que nous n'avons pas mené des enquêtes fouillées mm-hmm. qui peuvent nous donner une certaine conviction, ouais. voilà pourquoi moi je me laisse guider par ce que la justice de mon pays dira là-dessus.
D'accord.
C'est ces conclusions-là qui vont s'imposer à tout le monde et qui permettront au pays de pouvoir prendre les décisions qui s'imposent.
Mais quand même,
il faut noter que ces enquêtes, c'est une bonne chose. Parce que l'objectif qui est visé est noble, rentabiliser les trésors publics et permettre aux trésors publics de pouvoir s'occuper de tous les Congolais qui sont aujourd'hui en train de souffrir.
Merci Jean-Marie Nkamboa, Benjamin Wimambolo, journaliste à la radio communautaire au Sassé, à Tchoumbé, province de Sankourou. Il y a des fonctionnaires aussi dans la province de Sankourou, il y a des services publics. Quand vous entendez parler de ce rapport, avez-vous l'impression, en voyant comment sont rémunérés le personnel public, qu'effectivement il y a ce genre de manipulation qui profite à d'autres personnes?
Oui, je le confirme, mon frère. Vous êtes acquis sur ça peut être. Vous êtes à côté des autorités, ces agents craignent souvent les autorités qui sont sur place. Mais ici, à l'intérieur, c'est vraiment catastrophique. Ça ne va pas. Comme je disais, concernant la bacarisation, c'est comme déshabiller ses poules pour habiller Saint-Pierre. Ça ne va pas. On a dit prendre, réduire ou bien écarter les agents payeurs qui payaient les fonctionnaires auparavant et confier la gestion au niveau des banques. Mais ça ne va pas. Ici, au Sankourou, nous sommes consternés. Ici, ça n'a pas encore fait 3 mois que les agents... Les fonctionnaires étaient sortis dans des rues pour manifester. 3 mois d'absence de paix. Ça ne va pas. Mais regardez toute l'étendue de la province et la banque restait à Loudja. Là où je suis, la distance entre Tchoumbé et Loudja, c'est 150 km. Mais arrivé à Lusambo, c'est 250 plus 150, c'est dans les 400 ou bien 300 de kilomètres. Et la banque qui doit sonner avec de l'argent. Ça ne va pas. Et lorsqu'ils arrivent là, ils font comme ils veulent. Hein? Les gens doivent s'ensoleiller. Il y a des gens qui partent comme ça, ils sont toutefois me toucher leur argent, hein? Le SMIG que je l'appelle. Avant de le toucher, c'est jamais.
Bien, même
pour le retirer.
Benjamin Wimambolo, avez-vous déjà un peu dans le parcours de ce processus de bancarisation depuis presque 12 ans maintenant, et un peu plus, avez-vous déjà entendu parler des salaires qui n'appartiendraient à personne finalement, des salaires attribués à des agents fictifs ou des agents doubles?
Oui, mon frère. Ici, nous sommes en train de le vivre, non? Nous sommes en train de le vivre. On le voit. Hein? Vous allez voir quelqu'un qui ne travaille même pas, mais qui vient prendre son salaire. Ah, mais comment ça? Donc, ça ne demande pas tout simplement de quichesse ou bien de la haute hiérarchie. Même ici, ça se fait. Vous allez voir quelqu'un qui est une autorité quelque part, mais qui met son frère, qui ne travaille pas. Il vient profiter de cet argent. Même au niveau des banques, hein, vous allez voir, lorsqu'ils viennent, il voit que non, cette personne ne travaille plus. C'est une personne qui est un déserteur, qui est partie. Il prend une autre personne, il dit non, mon frère, allez récupérer votre salaire. Donc, de telles choses, c'est faux ici. On le remarque, mon frère. Avec le système de bancarisation, c'est un bon système qui a été proposé par le gouvernement de Matata Ponyo depuis un temps, ça peut être
Depuis 8 ans, 8 ans. 8 ans, 2012.
Oui, c'est depuis 8 ans. Il n'a pas coproduit ses fruits. Ici, à l'intérieur, ça ne va pas, mon frère. Ça ne va pas. On n'a pas vraiment ressenti l'intérêt de la bancarisation. Ça ne va pas. Il n'y a rien. Par exemple, avec la fonction publique. Comment, dans un État, il faut comparer avec d'autres États. Vous allez voir, lorsqu'on vous attribue un numéro matricule, ça fait que l'État vous prend en charge, la fonction publique vous prend en charge. Même ici, il y a des gens qui ont eu des numéros matricules depuis 2013, 2012, 2013, jusqu'à 2020, ils ne sont pas encore payés, ils ne sont pas encore pris en charge par la fonction publique. Donc, on ne sait pas. Ça peut être, ils sont pris en charge par la fonction publique, et c'est la banque qui coiffe. On ne sait pas... cette coiffe, c'est s'opère à quel niveau?
Alors, donc, Benjamin,
oui.
Benjamin, on peut quand même relever certains avantages de la bancarisation, notamment oui. Que les gens ont accès à un compte et peuvent aller plutôt prendre leur argent à la banque plutôt que entre les mains d'un individu qui peut les rançonner. C'est quand même plus ou moins un avantage. Pensez-vous que de la bancarisation à ce stade, on doit supprimer ou on doit plutôt renforcer les mécanismes pour éviter justement les fictifs et les doublons et conserver quand même ce processus de bancarisation?
Ok, avec le système de bancarisation, c'est un bon système. On peut renforcer sûrement ce que je préconise, c'est renforcer le système et de supprimer. Pourquoi j'ai dit cela? Auparavant, lorsque les agents payaient, personne n'avait l'accès de les contrôler. Mais tel que vous dites, non, ça donne l'accès aux gens d'aller ouvrir le compte ou bien aller trouver un accès facile, non? Dans son compte, ici c'est le contraire. Par exemple, la banque est à l'autre 150 km. Pour aller toucher son salaire de 100 000 francs. La distance, il faut prendre une moto. Et la moto, aller comme retour, 25 000, aller, 25 de retour, 50 000, vous perdez 50 000 pour un salaire de 100 000. Donc la banque n'est pas à nos côtés. Ce qu'il devrait faire, renforcer le système bancaire, comme au Sankou, plus de 6 territoires. Donc même dans 3 territoires, mais dans les 6 territoires, il faut qu'on ait une banque. Dans une province, il n'y en a qu'une banque seulement. Mm-hmm. On n'a pas encore résolu le problème.
Merci Benjamin Mambolo. Je considère ça comme étant votre conclusion. Jean-Marie Kamboa, en quelques secondes, que peut-on retenir de notre débat de ce soir?
Je reviens par rapport à la bancarisation pour constater qu'elle est une réalité. Et à ce jour, y a-t-il des retards dans la paye des fonctionnaires? Je constate qu'il n'y a pas tellement de retards. Et s'il y a des retards, ce n'est pas un retard excessif et les salaires sont payés. Nous encourageons les enquêtes et consorts afin de pouvoir nous dire la vérité parce que toute action que nous entreprenons doit toujours être évaluée à sa juste mesure. Mais je constate aussi qu'il y a des coins de la République qui sont enclavés comme le cas du Sankourou. C'est tout à fait normal que les efforts soient faits afin de pouvoir faire parvenir la paye, l'argent, à tous les fonctionnaires de l'État. Mais en lieu et place de se battre vraiment du Sankourou, les frères de la montagne et de la savane et consorts se battent en désordre, empêchant même à certaines actions de développement de pouvoir prendre corps dans leur province. Donc, ils mettent un peu d'eau dans leur vin.
Merci à toi, Jean-Marie Nkamboa. Un dernier mot pour clore cette émission, Dionite Kaninda.
Merci beaucoup, Donna. Je crois que mon mot, c'est de dire que je constate que la population congolaise, partant des retours que j'ai eu du discours du chef de l'État à l'Assemblée des Nations Unies, que la population commence à se fatiguer de ce président Félix Tshisekedi qui tient la carotte entre les mains. Et il a de plus en plus envie de voir un président Félix Tshisekedi qui tient le bâton entre ses mains pour que finalement les choses changent à grande vitesse dans notre pays.
Merci Dionite Kaninda, Jean-Marie Kamboa, Benjamin Mambolo à tous. Paul Badianyama, Kéline Kouté, Guimate, Axel Goncho m'ont aidé à préparer cette émission. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse, c'est fini pour ce soir. Merci de votre intervention. Au revoir.